Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure, pourtant, vous saurez comment on a considéré le sens de l'odorat au fil des siècles.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et vous le saurez grâce à Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Aloïse Guérin, Jean-Christophe Francis et Hugo Renard. Il est en général mal vu de plonger son nez à table sur ce que l'on a dans son assiette. Il n'est pas tellement conseillé non plus de trop s'arroser de parfum. Et puis, quand on voit un chien renifler l'un de ses congénères, on éprouve instinctivement une sorte de répugnance. Autrement dit, le sens olfactif est bien souvent associé à la vulgarité, tandis que l'ouïe et la vue seraient des sens bien plus nobles. Comment expliquer cette hiérarchie? Eh bien, tout simplement par des siècles d'associations d'idées que nous allons parcourir aujourd'hui. On va en effet raconter l'histoire et creuser les significations des odeurs avec vous, Brigitte Munier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à Télécom Paris Tech en sociologie et anthropologie. Vos travaux portent sur la pensée mythique et symbolique appliquée à la littérature, au patrimoine, à la technique et donc à l'odorat. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. L'odorat, ce sens sur lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le parfum à travers les siècles, c'était en 2003 aux éditions du Félin. Et puis, vous avez donné une suite à ce livre en 2017 avec l'essai « Odeur et parfum en Occident, qui fait l'ange, fait la bête ». C'est intéressant ce sous-titre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, et pour commencer cette émission, ce qu'il signifie?
Oui, mais vous savez, ce parfumé a toujours revêtu une importance extraordinaire, car ceux qui sentent bon, ben ce sont les dieux. Vous savez, à l'origine, chez les Grecs, par exemple, si Callias vient à côté de vous et qu'il sent bon, ben c'est que c'est pas Callias, c'est un dieu qui a pris la forme de Callias. Donc, lorsque l'on se parfume, d'une certaine façon, on cherche à se diviniser. Mais l'être humain n'est pas un dieu. En d'autres termes, il singe le dieu. Et il cherche tout simplement à séduire, et en ce sens, il fait la bête. Et c'est pourquoi les prostituées ont toujours, les pallages, en Grèce et ailleurs, ont toujours été associées aux débauches de parfums, car elles retirent le parfum à son usage légitime. Le parfum sert en effet à honorer les dieux, à honorer les morts et à soigner les malades. Il faudra voir pourquoi.
Dites tout de suite pourquoi.
Pourquoi? Eh bien parce que... Attendez, je vais finir ma phrase parce que sinon on va se perdre. Et elles utilisent finalement ce parfum pour servir leur propre corps, qu'elles enduisent de parfum comme on peut enduire la statue d'un dieu. Et donc effectivement tout cela est bestial. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est pourquoi le parfum a-t-il ses vertus? Parce que le parfum, il est immatériel et il participe à, en quelque sorte, l'âme de la plante quand il s'agit d'une plante, l'âme de l'individu lorsqu'il s'agit d'un saint, par exemple, qui sent bon. Et en ce sens, ce que l'on envoie vers Dieu va être une affaire d'âme. Alors, pour être plus clair, je pourrais peut-être évoquer l'odeur de sainteté, si cela vous convient.
Entrons en odeur de sainteté.
L'odeur de sainteté, c'est une notion qui existe dans le christianisme depuis environ le 9e siècle. Alors, quand quelqu'un meurt en odeur de sainteté, cela signifie qu'après sa mort, si on l'exhume, eh bien on le trouve avec un corps complet, avec un sang vermeil coulant sous sa peau. Mais attention, le sang vermeil, ça peut signifier finalement que c'est un vampire, auquel cas c'est pas bon. Mais en revanche, s'il sent bon, ce sera pas un vampire, c'est un mort, un mirobolite si vous voulez, c'est quelqu'un dont la sainteté fut telle que la pureté de son âme a entraîné son corps dans une transfiguration. Et en ce sens, quand on respire un mort en odeur de sainteté, on est soi-même sanctifié. Car ce qui a toujours gêné la culture occidentale, c'est le fait qu'on n'est pas libre devant l'odeur. Kant disait que l'odorat, c'est le sens le moins libre de tous, encore moins libre que le goût, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de respirer, étant donné la solidarité entre la respiration et l'inhalation. Et alors, si vous respirez un mort en odeur de sainteté, qui a donc été sanctifié par Dieu, puisque Dieu a accompli ce miracle de faire en sorte que son corps putrescible, périssable, sente bon, à ce moment-là, vous inhalez le miracle divin. Vous inhalez de la sainteté dans vos petits poumons. Mmh. En d'autres termes, vous êtes absolument divinisé.
Donc ça, c'est les bonnes odeurs, les odeurs qu'on va revendiquer. Mais je reviens à votre sous-titre, « Qui fait l'ange fait la bête ». Est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à se dissimuler, à dissimuler la bête qui est en nous, derrière des fragrances, derrière des parfums d'ange ?
Ah ben bien sûr. Alors là, il faudrait, comme disait Colette, prendre du commencement. Cette formule est assez jolie parce que...
Colette qui avait monté un magasin,
exactement,
dont on s'en souvient, dans les années 30, de parfum.
Voilà. Eh bien, alors pour prendre du commencement, il faut aller voir ce qu'a fait Prométhée lorsque il a répondu à la demande de Zeus qui voulait séparer les hommes des dieux. Il ne voulait plus de commensalité avec les hommes. Alors attention, il s'agit des hommes, il n'y a pas encore les femmes, hein, c'est simplement un début d'humanité. Et Prométhée prend un bœuf, un sacrifice, tout commence toujours par un sacrifice en Grèce, et de ce bœuf qu'il a tué, il fait deux parts, une première part dans laquelle il met la viande appétissante, mais par-dessus la peau réputée très mal appétissante, et l'autre tas, il prend des os, il les recouvre de graisse blanche. Ensuite, il donne à choisir à Zeus. Zeus a parfaitement compris cette affaire, mais il veut paraître faire l'objet de la, enfin, être victime, être trompé, de manière à pouvoir gagner la seconde manche, qui sera priver l'homme de sa foudre, de son feu. Donc il choisit la graisse et les os. Bon, arrêtons là. Tout se décide ici, c'est-à-dire que le mythe dit que les hommes vont lors du sacrifice, puisque en Grèce, on ne va pas chez le boucher. Hein. Toute viande consommée est une viande qui a été préalablement sacrifiée. L'homme va manger de la viande, c'est-à-dire en fait de la chair morte, du cadavre en quelque sorte, qu'il va mettre dans son ventre. Et d'ailleurs, Prométhée avait tassé la viande dans le gastère de l'animal. Donc l'homme mange du cadavre et lui-même deviendra tel. Et donc il a une vie digestive, il sent mauvais. La mauvaise odeur est du côté de l'homme, du côté du corps. La bonne odeur est du côté des dieux, puisque lors du sacrifice, on cuit le bœuf, on envoie son âme vers Dieu, en plus il est recouvert d'aromates, et les dieux se nourrissent de fumée parfumée. Ils n'ont pas
l'appareil digestif. Mais alors justement, c'est ça qui est intéressant, Brigitte Munier, c'est qu'on a l'impression que ce qui a prévalu pendant pas mal de siècles, peut-être que ça a changé récemment, on y viendra. Mmh. C'est cette idée des odeurs comme symbole de la mort à venir, et c'est plutôt les mauvaises odeurs qui prévalent, à tel point que l'odorat est un sens d'évaluer par rapport à l'ouïe et par rapport à la vision. Est-ce que c'est le cas, Brigitte Munier ? Comment ça se passe, cette affaire ?
En fait, vous soulevez beaucoup de questions à la fois, effectivement, parce que vous avez parlé... vous avez parlé de la mort, vous avez parlé de la dévaluation de l'odorat en général. Alors, bon, il faut suivre les deux pistes à la fois. D'une certaine façon, ça va être plus simple, on va se solliciter Freud pour essayer de commencer à vous répondre. En fait, Freud a imaginé, alors c'est purement fictionnel, hein, qu'au départ, l'humanité marchait à quatre pattes, les gens étaient enivrés par les effluves montant de l'humus et par...
Donc par la terre, il y avait quelque chose de très terrien,
oui, quelque chose de
organique,
terrien, de solide, de matériel, d'enivrant, etc. Et puis, sentait également les odeurs venant des autres hommes, éventuellement des hommes et femmes de ses partenaires. Et puis tout d'un coup, l'humanité s'est relevée. À ce moment-là, le regard, vous avez évoqué le regard tout à l'heure, passion scopique, les sens immatériels, regard et oui. Donc le regard a porté au loin. On a vu la fragilité des organes génitaux, dit Freud, donc on les a couverts. Les femmes se sont confinées pendant leur menstrue et patati patata, c'est parti. La civilisation était mise en route. Et donc Freud effectivement écrit ça, c'est assez récent. Mais quand on remonte à la Grèce antique, Platon, Aristote, tenaient quand même l'odorat en discrédit. Parce que l'odorat, encore une fois, c'est un sens qui est mi-matériel, mi-intellectuel. Pour Platon et pour Aristote, il est moins matériel que le toucher et le goût, mais il est moins spirituel que la vue et l'ouïe.
Alors pour qu'on comprenne bien, pour Freud, il y a un lien entre la civilisation et le fait de s'éloigner des odeurs.
Oui, la relégation de l'odorat, c'est la condition de la civilisation. Buffon a dit la même chose et Darwin aussi.
Ça va quand même très très loin.
Absolument.
Parce que la civilisation, voilà, bon, c'est quand même à peu près tout.
Oui, oui.
Enfin, en tout cas, ce qu'on considère comme la civilisation, et de l'associer à l'olfactif, tout d'un coup, ça nous emmène en effet dans des abîmes.
Oui, relégation de l'olfactif, condition de la civilisation. Et alors, effectivement, on a fonctionné comme ça, mais on pourra en parler après, jusqu'aux années 1970, où on a commencé à se réintéresser aux odeurs. Alors, effectivement, tout au long de l'histoire de notre culture, on assiste à un dédain, un mépris pour l'odorat, une grande méfiance à l'égard de l'odorat. C'est un flair, hein. Et il y a eu quelques philosophes comme Condillac, hein, sensualiste. Il a imaginé que de faire tout le procès à la jeunesse de la connaissance, il a imaginé une statue et le premier sens qui s'éveille, c'est l'odorat. Elle sent une rose, la statue devient odeur de rose. Mais il est très isolé dans toute cette histoire.
Il y a Nietzsche aussi qui, parmi les philosophes, ils sont pas très nombreux, considère l'odorat comme étant quelque chose d'intéressant.
Oui, mais de manière très métaphorique. Nietzsche a dit « tout mon génie est dans mes narines ». D'accord, mais il se méfie énormément des endroits chauds et humides. Ce qu'il aime, c'est les parfums des cimes. Bah, je sais pas si vous êtes déjà allé au sommet de l'Himalaya, ça sent pas grand-chose, hein, parce que les odeurs ont besoin de chaleur et d'humidité pour se développer. En fait, c'est vraiment métaphorique, il parle de la puanteur des âmes impures, les miasmes venant du ressentiment, etc. Mais puisque, justement, on en est à l'euphémisation, on a critiqué l'odorat, mais vous remarquerez qu'on dit, par exemple, à vue de nez, en associant deux sens complètement opposés.
Alors on parlera aussi du vocabulaire un petit peu plus tard dans cette émission, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions qui montrent à quel
Absolument.
Point l'odorat a intégré la langue française, et puis sans doute toutes les langues. Donc Freud, Aristote, Platon, le nez est au second plan, le nez
oui.
Pose problème. Nietzsche c'est déjà un petit peu mieux, et puis à un moment donné, on a un renversement de paradigme où tout d'un coup, ça va devenir plus intéressant de s'intéresser à la question de l'odorat. Ça se passe très récemment, au fond, Brigitte Munier, ça.
Bah écoutez, je pense que ce sont les hellénistes qui ont démarré. Marcel de Tienne qui a écrit Les Jardins...
Dans les années 1970.
70, voilà. Les Jardins d'Adonis, c'est la mythologie des aromates en Grèce. Il a montré la fonction centrale, en fait, de l'olfaction et des odeurs. J'ai évoqué l'histoire de Probité, mais après il y a celle d'Adonis. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit que l'odorat est partout, les odeurs sont partout. C'est tout l'intérêt, finalement, de ce sujet. C'est dédaigné et pourtant c'est partout, et y compris, comme vous l'évoquiez, dans le vocabulaire. Après ça, il y a eu, dans les années 90, Le miasme et la jonquille, donc 90, j'ai un petit doute, d'Alain Corbin, c'est un ouvrage absolument remarquable, et qui a fait l'histoire finalement de notre relation à l'odeur, aux odeurs et à l'olfaction, depuis le XVIIe siècle, oui.
Eh bien, on va écouter justement un extrait d'une archive avec Alain Corbin.
Notre époque, quand je dis notre époque, c'est-à-dire les deux derniers siècles, se caractérise par une ascension évidente du narcissisme, un souci de soi, une écoute de soi de plus en plus attentive, et l'odorat non seulement joue un grand rôle dans ces procédures, mais en outre, l'odorat est un indicateur très probant de cette ascension du narcissisme. La preuve, c'est que on ne met plus de gros parfums qui masquent l'odeur individuelle, mais on laisse au contraire filtrer cette odeur individuelle au travers de parfums le plus subtil possible, confère le grand succès des eaux de toilette. Autrefois, c'était réservé aux toutes jeunes filles, parce qu'il ne fallait pas qu'une toute jeune fille puisse mettre un parfum suffisamment fort qui puisse donner l'impression qu'elle voulait se marier très vite, c'est-à-dire qu'elle avait des ambitions sur le marché matrimonial. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce sens-là, c'est l'ensemble des personnes, y compris les hommes, qui utilisent ces eaux de toilette. Et ça, c'est tout à fait dans la ligne du développement du narcissisme.
Vous Voilà un extrait des Nuits magnétiques. Alain Corbin qui s'entretenait avec Annie Flavel le 15 décembre 1987. Nous parlons des odeurs avec vous, Brigitte Munier. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu ce lien que fait Alain Corbin entre narcissisme et olfaction? Est-ce qu'il y a forcément, est-ce qu'on est obligatoirement plus narcissique parce qu'on met du parfum que si on n'en met pas, je veux dire historiquement parlant?
Bah, historiquement parlant, le lien est effectivement assez net. Songez au XVIIe, au XVIIIe siècle, les puanteurs étaient abominables. Il y avait certes une différence de richesse, il y avait des classes sociales qui s'opposaient de façon extraordinaire, mais tout le monde puait aussi atrocement,
on pouvait être narcissique
aussi horriblement.
Quand même au XVIIe siècle, non?
Et attendez, c'est pas du tout pareil, parce que narcissisme suppose quand même une relation de soi à soi. Maintenant, imaginez toutes ces puanteurs, imaginez le XVIIIe siècle qui se demande comment on va s'en sortir. Il faut nettoyer les rues, mais l'ordure est partout. Et tout d'un coup, on commence à nettoyer, on commence à créer des cabinets de toilettes, parce qu'auparavant on ne se lavait pas, il faudrait voir pourquoi, on se lavait quand même, mais pas de la manière dont nous l'envisageons, et tout ça passe par l'odeur. Et tout d'un coup, imaginez un cabinet de toilettes. Ça ne sent rien ou ça sent bon, et la personne est seule dedans. Et tout d'un coup, découvre sa propre odeur, se lave, applique un parfum quelconque, et à ce moment-là, il y a cette intimité et cette découverte de soi. Et à ce moment-là, on se dit qu'on peut se styliser par l'odeur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a une odeur, et tout le monde est complexe. Mais on veut, par le parfum que l'on choisit, styliser en quelque sorte, exprimer sa singularité par le parfum. Vous ne pouvez, une jeune fille va pas mettre femme de Rochas et une femme d'âge mûr va pas mettre Anaïs. Enfin, on peut trouver l'équivalent pour un homme. Donc on choisit un parfum, on se singularise, c'est purement narcissique, mais en même temps, le narcissisme n'existe qu'à partir du moment où on l'impose à l'autre. Donc c'est toute une dialectique, on se célèbre soi-même en se donnant à sentir à l'autre.
Donc dans une société communautaire, on n'a pas vocation à se parfumer, ou en tout cas moins que dans une société plus individualiste.
Tout dépend ce que vous appelez société communautaire. Si on vit effectivement tous ensemble, on en aura effectivement moins besoin. Je sais pas pourquoi ça m'évoque les hyènes, vous savez, qui se baignent toutes dans le même étang, enfin dans la même pièce d'eau, pour avoir toutes les mêmes odeurs, qui sont assez répugnantes d'ailleurs. Mais effectivement, on en aura moins besoin. Une société individuelle, c'est bien sûr. Et plus on avance dans le temps, et plus les parfums sont adaptés aux tranches d'âge. J'évoquais Anaïs, c'est un parfum adolescent, car l'adolescence est apparue comme un moment spécifique de la vie.
Et ça sent quoi un parfum adolescent par rapport à un parfum pour une femme ou un homme d'âge mûr?
Ce serait un parfum moins lourd, des notes beaucoup plus fraîches, rien qui ressemblera à du musc. Enfin, maintenant, le musc est supprimé. Le musc est une odeur qui provient d'une glande qui apparaît en période de rut chez le chevrotin porte-mus de l'Himalaya. Généralement.
C'est facile à trouver, ça.
Non, c'est pas facile à trouver, mais enfin bon, on a quand même suffisamment trouvé cela pour décimer les chevrotins. Hein, l'être humain est un sale animal, lui, de son côté. Et en plus, on ne pouvait pas. Les chevrotins porte-mus ne sécrétait pas de musc en captivité. Donc maintenant, c'est interdit et il existe du musc artificiel. Et tous les parfums animaux sont interdits.
Mais c'est une convention de dire que les jeunes filles qu'on associe à la fraîcheur doivent avoir un parfum qui est un parfum moins capiteux que des personnes plus âgées.
C'est une convention et en même temps c'est un héritage historique. Vous savez, au XVIIe siècle, les gens sentaient fort. Il faudra en reparler. Ils se nettoyaient, mais avec des parfums, c'est assez spécifique. Et les hommes et femmes mettaient beaucoup de musc. Et d'une certaine façon, c'était leur manière d'être propre, c'est-à-dire d'éponger toutes les humeurs que leur corps pouvait exsuder, mais il n'en reste pas moins qu'ils voulaient aussi sublimer en quelque sorte une odeur sexuelle. Et au XVIIIe siècle, quand on n'en pouvait plus finalement de ces débauches olfactives, on a préféré des senteurs florales, et les vieux beaux sentant le musc qui approchait des jeunes filles, entendaient « Ah, n'approchez pas, monsieur, vous avez des odeurs. »
Ah oui.
Et alors, à la cour de Louis XV, appelé le doux fleurant, il était de bon ton de changer de parfum tous les jours, mais des parfums légers. D'autant que le chevalier de Jaucourt, auteur des articles sur le parfum et l'odeur dans l'encyclopédie, avait peur que le parfum ne sidère le cerveau, avec un Y.
Et pourquoi le musc plaisait-il tant? Est-ce que c'était pour cacher justement les odeurs corporelles trop fortes?
Non, pas tellement les cacher, mais les sublimer, les transfigurer. On pourrait dire en quelque sorte que le parfum a toujours la même fonction. Il s'agit transfigurer. Il faut passer du matériel au spirituel, de la chair au corps, du corps à l'esprit. C'est toujours ça finalement. Donner à sentir l'âme et non point la matière, non point la chair. Et quand vous respirez l'odeur de quelqu'un, ça vous est insupportable parce que vous rentrez dans son intimité, mais ça peut être également très agréable. C'est Jules Romain qui disait de la femme aimée, je connais son odeur, pas son parfum, non son odeur sienne.
Alors, pourquoi ne se lavait-on pas avant les cabinets de toilettes, ou plutôt, comment se lavait-on avant les cabinets de toilettes, Brigitte Munier?
Mais écoutez, on se lavait encore au XIIIe siècle, et il y avait beaucoup d'étuves à Paris, on s'y rendait souvent. Alors, il y avait des bains de propreté et des bains de complaisance. Les bains de propreté, bon, s'y lavaient. Les bains de complaisance, bien, on y allait. Alors, le livre des vices et des vertus de Valère Maxime montre des couples qui sont dans une sorte de cuveau, avec un dais par-dessus. Ils sont dans leur bain, mais également ils mangent, ils boivent, et puis ils peuvent se rejoindre dans un lit après. Et le problème, c'est qu'il y a eu des épidémies au XIVe siècle, épidémies de peste. Et on a pensé, alors là je fais un anachronisme total, mais que les étuves pouvaient être des clusters. Je suis désolée, je n'ai pas résisté. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de cas dans ces cas-là. Simplement, on a confondu la contamination due à la promiscuité et la contamination qu'on attribuait à l'eau. Parce qu'on avait remarqué que les pores de la peau se distendaient. Et on a pensé que les miasmes, les venins rentraient par les pores de la peau. Donc, on a commencé à cesser de se laver. On a porté des vêtements très serrés et on s'est protégé un maximum des odeurs ambiantes. Donc, effectivement, ça commençait à sentir mauvais puisqu'on ne se lavait pas.
Donc, on sentait meilleur pendant tout le premier millénaire qu'entre le XIIIe et le XVIIIe siècle?
Globalement, oui. Alors, on a commencé à développer une propreté tout à fait particulière. Donc en gros, si vous voulez, 14e siècle, Marcille Ficin commence à se dire ça va pas du tout, il faut arrêter de se laver comme ça. Puis le Concile de Trente a, lui, voulu supprimer les étuves parce que, outre la contamination, il trouvait que là-bas, il se passait toutes sortes de choses inavouables. Donc on a cessé de se laver, mais ça ne voulait absolument pas dire qu'on cessait d'être propre, tout au moins dans les classes riches, parce que on changeait de linge. Alors, vous imaginez, le roi rentre de la chasse avec toute sa cour, on va prendre Louis XIV, c'est pas la peine de se priver, il arrive donc en transpiration et il change de linge. Mmh. Alors beaucoup débauchent surtout le linge blanc doit être contre la peau, puis après vous mettez les velours, etc. Et tous ces jabots, canons de dentelle qui dépassent indiquent la propreté. Et puis on utilise le parfum, puisque c'est notre sujet, on se tamponne tous les émonctoires avec du parfum pour enlever les humeurs, si vous voulez. Et ça revient à une sorte de propreté. Et Charles Perrault dit que on n'a pas le besoin d'avoir toutes les termes et toutes les étuves des siècles passés à cause, dit-il, de la commodité que nous avons du linge.
Bon, mais Louis XIV se sentait quand même très mauvais. Ça, c'est un fait avéré, notamment parce qu'il avait un problème à la bouche, je crois.
Bon, je crois que ça devait se perdre dans... Madame de Montespan se plaignait du fumet des orteils de son amant royal. Et lui-même, le pauvre malheureux, est devenu allergique. Parce qu'il y avait de tels, il mettait tant de parfums qu'à la fin, il ne supportait plus que l'eau de fleur d'oranger.
Alors, on voit qu'à partir du 18e et les cabinets de toilettes, ça sent un peu meilleur. Et comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les grandes étapes qui nous conduisent à notre relation à l'hygiène et aux odeurs d'aujourd'hui, Brigitte Munier?
Eh bien, il y avait deux choses. Il fallait désodoriser la ville et désodoriser les appartements, désodoriser les habitats. Alors là, il y a une partition sociale parfaitement injuste parce que les possédants, les nantis, pouvaient avoir des appartements relativement nettoyés et alors même que l'on ne disposait pas encore de tout à l'égout, ils pouvaient évacuer excréments, déchets, etc. Alors que les pauvres vivaient au sein d'odeurs indifférenciées, pourrait-on dire. Et là, le roman français est absolument une richesse extrême,
hein, pour
parler de tout ça. Zola, mais même avant, Balzac, Victor Hugo, etc., dans le bouche de la Jacques Ressard, il parle d'odeurs indifférenciées. Et effectivement, Les misérables qui étaient des victimes sont devenus responsables des miasmes, des maladies, puisque d'abord les nantis ne comprenaient pas comment les pauvres pouvaient supporter leur propre odeur. D'ailleurs, l'usage du stéthoscope était autant dû à la préservation de la pudeur qu'à la nécessité de ne pas être trop près des corps malodorants. Et en plus, on avait peur que des miasmes, enfin des foyers de contamination partent des taudis. Donc il y a eu cela. Alors à ce moment-là, ce moment précis, enfin qui dure un certain temps, est un moment où on cherche à désodoriser la
donc
ville.
Donc qui entraîne peut-être les travaux d'Haussmann, par exemple,
oui,
tout
oui,
l'hygiénisme
bien,
du 19e.
Bien sûr, donc le tout à l'égout, les fosses septiques, etc. Et puis le fait que l'eau circule dans la ville absolument comme elle circule dans un corps, si vous voulez. Donc il va y avoir effectivement la pauvreté responsable, l'infecte odeur du pauvre, si vous voulez. Et Zimmel a dit que on accepterait n'importe quel sacrifice plutôt que de sentir l'odeur du pauvre qui est épouvantable. Et puis il y a tous ces, puis petit à petit, ben, vous connaissez ça aussi bien que moi, petit à petit des progrès.
Il n'y a pas de grande rupture au XXe siècle, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, et puis quand même un certain confort qui se généralise.
Oui, mais c'est moins net, si vous voulez, que des ruptures qui ont eu lieu auparavant, avec toutes sortes. Bah, tenez une petite. En venant chez vous, je suis passée devant la maison de Balzac. Et bien, rue Cassini, Balzac avait une baignoire. C'était quand même il y a longtemps. Hein, donc, il avait une baignoire. Et quand il a eu fini d'écrire La Femme supérieure, il a envoyé une lettre à Madame Anska, l'avisant qu'il allait peut-être prendre un bain. Et ça faisait un mois qu'il n'avait pas fait ça. Mais c'était une affaire envisageable avec circonspection, car il sentait ses fibres tendues au dernier degré. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là, mais on voit bien qu'un bain, quand même, ce n'est pas une affaire anodine à l'époque.
Alors, on va parler d'un livre très célèbre qui s'appelle justement Le Parfum, et dont vous parlez également, Brigitte Munier, dans votre livre Odeur et Parfum en Occident. C'est un livre de Suskind qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 et 90. On en écoute tout de suite un extrait.
Une jeune fille était assise à cette table et préparait des mirabelles. Elle les puisait dans un panier à sa gauche, les équeutait et les dénoyautait au couteau, puis les laissait tomber dans un seau. Elle pouvait avoir 13 ou 14 ans. Grenouille s'immobilisa. Il sut aussitôt quelle était la source du parfum qu'il avait senti à une demi-lieue depuis l'autre rive du fleuve. Ce n'était pas cette arrière-cour miteuse, ni les mirabelles. Cette source était la jeune fille. L'espace d'un moment, il fut si désorienté qu'il pensa effectivement n'avoir jamais vu de sa vie quelque chose d'aussi beau que cette jeune fille. Pourtant, il ne voyait que sa silhouette à contre-jour. Ce qu'il voulait dire, naturellement, c'est que jamais il n'avait senti quelque chose d'aussi beau. Mais comme malgré tout il connaissait des odeurs humaines, des milliers et des milliers, des odeurs d'hommes, de femmes, d'enfants, il ne parvenait pas à comprendre qu'un parfum aussi exquis pût émaner d'un être humain. Habituellement, les êtres humains avaient une odeur insignifiante ou détestable. Les enfants sentaient fade, les hommes sentaient l'urine, la sueur aigre et le fromage, et les femmes la graisse rance et le poisson pas frais. Parfaitement inintéressante et répugnante, l'odeur des êtres humains. Et c'est ainsi que, pour la première fois de sa vie, Grenouille n'en croyait pas son nez et devait requérir l'aide de ses yeux pour croire ce qu'il sentait.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cet extrait du Parfum de Patrick Suskind, lu par Guillaume Gallienne. Alors, dans ce roman, Le Parfum, Brigitte Munier, le héros Grenouille est capable d'identifier des êtres à leur odeur qu'il perçoit, telle leur intime vérité, leur essence. Ben oui, le parfum, c'est invisible, donc c'est censé refléter l'essentiel d'un être.
Oui, c'est-à-dire son âme.
Son âme.
Et effectivement, cette jeune fille au mirabelle dont parle Grenouille, que je vous le rappelle, le héros, lui, il est inodore. Hein. Il sent tous les parfums, il est capable de les reproduire, de les composer, mais il est inodore. Et c'est effectivement le parfum de son âme. Et Grenouille va tuer, je crois qu'il tue 26 jeunes filles hein, pour faire un parfum d'ange. Et bien évidemment, ces jeunes filles sont vierges. Sinon, elles n'auraient pas ce parfum merveilleux. Vous m'avez tout à l'heure parlé des jeunes filles, du musc, etc. Et non. Ce que veut dire ici Suskind, c'est que c'est ce parfum de paradis.
Donc ce parfum de la pureté originelle, exactement, supposait-elle.
Ben, la vertu sent toujours bon. Hein. Là, il parle, enfin, le Suskin, son roman est historiquement très très exact. Et quand Jean-Jacques Rousseau, dans L'Émile, présente Sophie, qui est son type idéal de la jeune fille, elle se lave pas beaucoup, Sophie, mais elle est mieux que propre. Je cite verbatim Rousseau, elle est pure.
Donc le parfum, c'est une idée aussi.
Le parfum, c'est une idée, oui, bien sûr. Mais vous savez, quand Baudelaire, je crois que c'est dans Le Balcon, il dit « En me penchant vers toi, reine des adorés, je croyais respirer le parfum de ton sang. » Il y a une homologie entre le parfum, le sang, l'âme, la fumée, la vertu. Le parfum est toujours du côté de la lumière, de la spiritualité, de la beauté, par opposition à la puanteur qui est du côté de l'obscur, de l'humidité, de la pourriture, etc.
Est-ce qu'il y a des odeurs qu'on a considérées autrefois comme étant mauvaises et qui sont ensuite devenues des odeurs considérées comme bonnes ? Ça existe, ça ?
Oui. Pour tout ce qui est ce qu'on appelle les parfums animaux, c'est-à-dire l'ambre gris. L'ambre gris, c'est un produit qui vient de concrétion intestinale et pathologique du cachalot. Et la première fois que ça a été repéré, c'est par Néarque, amiral d'Alexandre le Grand. Hein, ça flottait à la surface. On en vend, il faut pas en acheter parce que c'est jamais ça. Ça vaut de l'or.
Ah oui.
Et puis il y a le castoreum, qui est récupéré dans une glande proche du cloaque chez le castor, la civette et le musc. On en a déjà parlé. Alors déjà dans l'Antiquité, c'était Virgile qui trouvait que l'odeur de le castoreum c'était pas bon. Donc effectivement, toutes ces odeurs qui sont assez sexuelles, assez urineuses, sont un petit peu ballottées, on les aime, on les aime plus, elles sont extrêmement fortes, bien évidemment il faut les diluer dans l'alcool.
Ça ne correspond pas à des pensées dominantes d'une époque ou d'une autre ?
Non, parce que ça a été trouvé, enfin dès que ça a été trouvé, ça a été aimé. Et puis vous savez, quand on faisait des parfums, les parfums n'étaient pas simplement composés de pétales de fleurs. Non, les parfums étaient très très mélangés, par exemple, et les parfums soignaient, hein, puisque c'est la bonne. Le parfum est associé au sec, la maladie est associée à l'humide. Donc, quand on est malade, il faut qu'on soit soigné avec un parfum qui va assécher en quelque sorte la maladie. Donc, tous les remèdes jadis étaient odorants. Et quand on faisait un remède, on pouvait mettre des aromates, des résines, enfin toutes sortes de choses odorantes, plus de l'argent, des perles, enfin pour les remèdes coûteux, hein, de l'argent, des perles, de l'or, et puis de la poudre de cloporte, de la compotée de limaçon, de l'urine, des excréments, enfin tout un mélange absolument incroyable. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les choses monstrueuses, hideuses, ignobles, potentialisent en quelque sorte les choses bonnes, voyez-vous ? Et alors il y a eu des recettes de remèdes, mais absolument invraisemblables. Il fallait, par exemple, nourrir un corbeau aux œufs durs. Pourquoi aux œufs durs, j'en sais rien. Ensuite, on le coupait en petits morceaux, on le distillait. On prenait des petits chiens pour faire de la pommade bonne pour le teint. Pas de l'antiride, hein, parce que les gens mouraient quand même tôt.
C'était avec des charpées, non ?
Il n'y avait pas encore de rides. Enfin, on mourait avant d'être ridé. Eh bien oui, on prenait un petit chien, on le mettait à cuire avec de l'huile, enfin des petits chiens, et puis ensuite on en faisait une huile que l'on versait sur un certain nombre d'herbes, et voilà, c'était une pommade, mais un onguent merveilleux.
Ça fait un peu penser à ce que faisait Grenouille, toujours dans le parfum, avec les jeunes filles qu'il tuait, puisqu'il pratiquait la technique de l'enfleurage froid. Qu'est-ce que c'est que cette technique de l'enfleurage froid ?
Eh bien, on la pratique toujours, mais pas avec des jeunes filles. On la pratique toujours à Grasse, pour des parfums qui valent très très cher, puisque vous prenez de la graisse, de la graisse blanche, et vous piquez dedans des fleurs de jasmin, par exemple. Lorsque la graisse est complètement imprégnée de ce parfum de jasmin, vous la distillez. Et la jeune fille...
Était enveloppée
dans un linge, lui-même recouvert de graisse, et on attendait que le linge soit imprégné de son parfum.
Alors, le livre se développe avec le moment où ce parfum existe pour de vrai.
Oui.
Grenouille s'en asperge. Et là, au fond, il crée une espèce d'hystérie autour de lui, parce que le parfum qu'il a créé de ses 16 filles vierges est absolument...
Il est divin.
Divin, exactement.
Il est divin, oui, puisque ce sont les âmes des jeunes filles les plus merveilleuses qu'il ait rencontrées. Il crée des scènes incroyables deux fois. Une première fois, lorsqu'on le prend, parce qu'on l'a identifié comme meurtrier, et il s'arrose de son parfum d'ange. Et c'est une véritable bacchanale qui se passe. La deuxième fois, c'est très saisissant et l'explication est intéressante. Il va dans le cimetière des Saints Innocents, là où croupit la nuit les gens de sac et de corde. Il le voit arriver, donc il se met son parfum merveilleux, il s'en éprègne immédiatement.
C'est vraiment la bête sous l'ange en l'occurrence.
Voilà, c'est l'ange qui apparaît et il se jette dessus.
L'odeur de l'ange.
Il se jette dessus et il le dépèce et il le mange. Alors ça peut laisser un peu interdit, mais pourtant, deux références, si vous le permettez, pour comprendre. La première référence vous paraîtra un peu bizarre, fait penser à l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez, quand Sainte Thérèse d'Avila est morte, on l'a inhumée et on l'a mise au tombeau et on a mis un poids énorme, une statue, j'imagine, quelque chose d'énorme sur son tombeau pour éviter qu'elle ne soit exhumée et découpée en petits morceaux. Donc c'est monstrueux, on pourrait penser que le respect pour une personnalité de ce type... Non, parce que les gens veulent une relique, un petit bout de vêtement, un petit bout d'os, un petit bout de n'importe quoi pour qu'ils aient un petit débris, en quelque sorte, mm-hmm. à vénérer. Et alors, l'autre exemple que je puis trouver, ça renvoie encore aux Grecs. Vous savez, les Grecs disaient Médénagan, rien de trop. Il fallait toujours observer la mesure. Mais au bout d'un temps, on décompense à force d'être si raisonnable. Donc, de façon, la bacchanale ou la cèse. Donc, ou bien on mange des animaux tout vifs, ou bien précisément on s'affame, on ne mange plus de viande, on essaye de se nourrir de mauve simplement, presque de rien. Et alors là, c'est du côté de la bacchanale, c'est-à-dire cette extase sanctifiée en quelque sorte aboutit à la dévoration, à l'homophagie.
Il est de forts parfums pour qui toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre en ouvrant un coffret venu de l'Orient, dont la serrure grince et rechigne en criant. Ou dans une maison déserte, quelque armoire pleine de l'âcre odeur des temps poudreuse et noire, parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensées dormaient, chrysalides funèbres frémissant doucement dans les lourdes ténèbres qui dégagent leur aile et prennent leur essor, teintés d'azur, glacés de rose, la médaille.
Sans oser le demander sur France Culture, et vous avez reconnu bien sûr Brigitte Munier, le poème de Baudelaire, Le Flacon, chanté par Léo Ferré. Vous nous avez dit à quel point Baudelaire était un poète de l'odeur. Les mots, évidemment, sont très importants quand il s'agit d'exprimer le rapport avec l'olfaction. Alors, avoir du nez, par exemple, ça c'est une expression qui dit beaucoup sur la manière dont on envisage l'odeur.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que l'expression est ancienne et donc date d'avant la reconnaissance de la complexité de l'olfaction comme telle. Mais on peut aussi, tout à l'heure on avait évoqué la notion à vue de nez, hein, mais il y a aussi avoir le nez creux, avoir le nez fin. C'était Madame de Sévigné qui disait cela, le flair du détective. Donc c'est un peu comme si finalement toute la relégation du nez, le dédain pour l'olfaction se retournait au son contraire et le nez devenait le sens de l'esprit de finesse.
Donc en même temps qu'on invente les cabinets de toilettes, donc c'est toujours 17e, 18e siècle, que dans le vocabulaire, l'odorat redevient...
Oui, quoique, parce que quand Madame de Sévigné dit cela, bon, elle respire son eau de la reine de Hongrie, mais ça sent pas du tout bon hein, dans Paris. Paris sent la fange, comme le disait
Corneille. C'est peut-être le début d'un mouvement ?
Non, je crois qu'on... c'est assez curieux, on relègue l'olfaction et finalement, elle est tellement importante qu'il faut bien qu'elle ressorte d'une façon ou d'une autre. Elle ressort par le langage, elle ressort par la mystique. Vous savez, l'odorat pour la mystique, alors aussi bien juive que chrétienne que musulmane, mais enfin là, je connais moins bien, l'odorat est absolument fondamental, central. Pourquoi ? Eh bien parce que l'odeur ne ment pas. Si vous avez vu quelque chose, vous avez cru voir, peut-être que vous êtes trompé, quelqu'un facilement vous dira mais non, vous avez cru entendre, mais quand vous avez une odeur délicieuse, c'est un extase, une odeur infecte,
vous vous en souvenez quoi qu'il arrive.
Absolument. Et l'odeur est holiste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la fractionner en différentes parties, contrairement à un spectacle que vous avez pu voir. Donc l'odeur ne ment pas, et c'est pour ça qu'elle est si importante dans la relation à Dieu.
En France, enfin plutôt en français, on utilise beaucoup le verbe « sentir », et pas uniquement pour les odeurs. Ça prouve à quel point c'est devenu finalement important et synonyme de beaucoup de choses, et notamment de ce qui n'est pas cérébral, de ce qui est
tout à fait.
De l'ordre de du ressenti, enfin.
Oui, en anglais, il y a tout ce mal et tout film. Donc je me sens bien, je ne peux pas le sentir, il est puant. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le vocabulaire olfactif sert le racisme de façon extraordinaire. Vous pouvez toujours, notamment pour la guerre de 14, la guerre de 40. Alors, on pouvait dénoncer les méfaits, les crimes de l'adversaire, mais si on disait qu'il est puant, qu'il pue, à ce moment-là, on va au-delà finalement de la dénonciation de viols, de meurtres, etc., qui sont hélas le bagage ordinaire de toutes les guerres. Non, là, on traite l'ennemi de sous-homme. Il n'est pas digne de vivre, il pue trop. Et on l'accepte de l'humanité.
C'est un peu la même chose avec les étrangers.
Ah bah exactement.
On se souvient du discours de Jacques Chirac,
le bruit et l'odeur. Les odeurs, oui. Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des découvertes plus récentes sur l'importance de l'olfaction dans les théories neurologiques ? Parce qu'on se rend compte à quel point, dans l'hémisphère droit, on sent les choses beaucoup plus qu'on ne le croyait auparavant.
Bien écoutez, cette histoire d'hémisphère droit, elle a été paradoxalement, la localisation du siège de la mémoire et de l'odorat dans l'hémisphère droit du cerveau, date de Proust. Et c'est assez incroyable. Vous savez, on parle toujours de la petite Madeleine, et les gens disent la petite Madeleine, mais ils n'ont pas forcément lu. Le texte est long, et il est absolument admirable. Et les biologistes parlent de Proust phénoménon pour désigner cette découverte de Proust, qui a vu dans les stimulus olfactifs quelque chose qui favorisait tout particulièrement la mémoire, précisément parce que l'olfaction est holiste. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit à ce moment-là que l'olfaction est un sens métaphysique. J'ai plaisir à le dire, puisqu'on avait commencé par la relégation de l'olfaction par Freud, Darwin, etc. Effectivement, l'histoire de la petite Madeleine, lorsque vous goûtez ou que vous sentez une saveur ou une odeur, jadis goûtée ou respirée jadis, vous vous rendez contemporain d'une sensation précédente, et vous avez finalement ces deux sensations qui sont nées à des intervalles de temps extrêmement éloignés, qui se confondent. Et en ce sens, vous vous placez, quand vous êtes sur les hauteurs silencieuses du souvenir, dit Proust, en dehors du temps, et vous éprouvez un peu de temps à l'état pur. Alors jamais Hegel, Marx, Platon, Aristote ne sont arrivés à cela. Proust y est arrivé, donc l'odorat est sens métaphysique.
Entrez avec moi dans le laboratoire de Guerlain et regardez autour de vous. Ici, l'oléine émulsive, la lotion de Goland pour rafraîchir, adoucir et rendre l'éclat à la peau. La conserve de mets, le cold cream, la crème de limaçon, de concombre pour faire disparaître les rougeurs et toutes les inflammations de la peau, les irruptions de sang, les efflorescences, etc. Puis voici des eaux balsamiques qui joignent un suave parfum à leur hygiénique influence. Voilà des pommades préservatrices pour votre chevelure, pour vos dents, des élixirs, des opiats conservateurs. Voilà enfin des préparations de toutes sortes qui chacune ont une propriété particulière, qui chacune répondent à un besoin et viendront réparer tout dommage causé par l'âpreté de l'hiver ou la multiplicité des veilles et des plaisirs. Mille fois soit béni Guerlain et sa divine science.
Jusque en haut des cuisses, elle est beautée. Et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux.
Un texte de 1841 paru dans la presse et lui ci par Elsa Dupuis, où il est question du laboratoire de Guerlain. Il faut peut-être parler un petit peu avec vous, Brigitte Munier, de la chimie dans cette histoire occidentale de la sensibilité à l'odeur et au parfum. La chimie, pour parler de la parfumerie moderne, parce que au fur et à mesure que on a mieux maîtrisé cette chimie, on a pu créer des parfums qui n'existaient pas dans la nature. Et ça, ça change beaucoup de choses.
Bien sûr, mais le texte que vous avez lu évoquait très fort César Birotteau, le texte de Balzac et César Birotteau, qui, à l'aide du chimiste Vauquelin, justement, fait sa pâte des sultanes, etc., etc. Oui, alors la chimie, effectivement, ça date de la fin du 19e siècle, à partir de 1868, je crois que c'est là qu'il y a la synthèse du principe odorant de la fève tonka, qui est la coumarine. Et là, effectivement, ça change tout, puisqu'on va pouvoir créer des odeurs qu'on ne peut pas capturer dans la nature, comme le muguet, par exemple. On ne peut pas le...
Ou le lilas, paraît-il.
Oui, absolument. Absolument. Et donc,
on copie une odeur, enfin,
la recréer,
une odeur
si vous voulez.
Qui ressemble, ça peut
qui
être
ressemble,
exactement
bien sûr,
la même chose.
Bien sûr, absolument. Et donc, on va pouvoir avoir des senteurs abstraites. Par exemple, Jiki, puisqu'on évoquait Guerlain. Jiki, qui est le nom donné par le neveu, qui est le neveu du créateur de Jiki. C'est un parfum qui arrive en 1889. C'est une odeur abstraite, absolument comme Chanel numéro 5, qui est plus tardif, avec ses fameux aldéhydes gras. Et Gabriel Chanel avait voulu une odeur construite, une odeur abstraite. Il voulait pas une odeur de fleurs, une odeur de femme qui sente la femme. Ce qui paraît tout à fait étonnant. Et effectivement, on a des parfums nul autre pareil qui méritent le nom d'œuvre d'art, même si les parfums ne sont pas encore considérés comme des œuvres de l'esprit.
Mais comment on fait quand on arrive avec une odeur jamais sentie pour savoir si ça sent bon ou pas, et pour savoir ce que ça sent, c'est-à-dire à quoi ça fait penser. C'est un peu comme une œuvre d'art abstraite, ça n'est plus figuratif, donc on a plus de rapport avec la réalité. Alors comment ça se passe quand ces parfums arrivent?
Gabriel Chanel, vous aurez répondu que ça sent la femme.
Mais ça veut pas dire grand-chose. Hein.
Et en même temps, ça veut tout dire. C'était une sorte de quintessence de féminité. Alors...
C'est difficile de parler de féminité. C'est un concept fluctuant. Alors, comment est-ce qu'on peut accoler une odeur sur un concept qui change et qui est encore en train de changer?
Vous pouvez imposer finalement cette odeur, tel un repère finalement. Mais vous savez, finalement, tous les parfums qui sont proposés se ressemblent malheureusement beaucoup. Mm-hmm. Parce que les compositeurs de parfums, ceux qu'on appelle des nez, alors ils n'aiment pas trop ça, mais je trouve que c'est assez joli cette référence cyranéenne comme ça. Eh bien, ces nez font partie des maisons qui composent des parfums à partir de briefs, c'est-à-dire de demandes. Ça pourrait être, par exemple, on voudrait un parfum qui ressemble un peu à Anaïs, mais pour une jeune fille qui serait peut-être un peu plus féline, un peu plus âgée, un peu plus ceci ou cela, ou femme de rechasse, mais plutôt pour une femme blonde. Enfin, bon, après, c'est évidemment totalement subjectif.
Des parfums pour des blonds ou des bruns, oui. Ça existe.
Ça existe.
C'est étrange quand même.
Mais il y a encore des nez, alors chez Hermès, Guerlain et Chanel, ce sont des gens qui composent, finalement, comme n'importe quel artiste, suivant l'inspiration. Jean-Claude Elena, qui a quitté maintenant Hermès, mais qui a été parfumeur et qui a créé la gamme Hermès-Sens, enfin maintenant c'est sa fille qui a pris le relais. Il avait senti à Aswan en Égypte une odeur de mangue verte et il a voulu à partir de là créer un parfum. Alors est-ce que le parfum plaira ou pas? Est-ce qu'il fera songer à des mangues vertes ou pas? Après, c'est au public véritablement de répondre. Et puis, petit à petit, on s'habitue à certaines odeurs. Je crois que je répondrai mieux à votre question avec Jiki, précisément. Lorsque Jiki, en 1889, est sorti, les femmes n'ont pas osé le mettre. Il était trop... trop fort. Elles avaient le sentiment de paraître des gourgandines si elles portaient cela. Les hommes l'ont porté. Et à l'époque, les hommes pouvaient porter des parfums capiteux. Après, ça n'a plus été le cas. Donc, il y a effectivement des modes. Le parfum Calvin Klein, c'est un parfum unisexe. Il y avait eu auparavant Flaberger, je crois, et d'autres qui avaient essayé de proposer des parfums unisexes, ça n'avait pas marché. Et là, je ne sais pourquoi ça a marché. Les
à
garçons
cause de la
et les
communication
filles
qui allait avec, peut-être.
La communication qui allait avec, c'était les années SIDA. Le flacon était très bien fait. C'est un flacon un peu pharmaceutique avec un bouchon métallique. Et les images qui accompagnaient le lancement du parfum représentaient des jeunes tous habillés de la même façon, garçons et filles mélangés. Et ça créait une sorte de réassurance. Donc vous savez, quand on commercialise un parfum, vous parliez de la fragrance en tant que telle. Mais il n'y a que 3% du prix du parfum pour la fragrance. Pour le reste, c'est la mise en paquet, c'est la publicité, etc. Donc, finalement, si le lancement est bien fait, on va pouvoir se reconnaître dans un parfum.
Donc, on est bien d'accord qu'un parfum qu'on aime, on l'aime parce qu'on aime l'affiche qui va avec.
Ben, si on est un petit peu fin dans le domaine des choses du nez, eh bien, peut-être on parvient à apprécier le parfum comme tel. Mais c'est long, on ne trouve peut-être jamais son parfum.
En tout cas, il y a un vrai rôle sociologique à ces parfums-là. Vous dites que donner à respirer Opium de Saint-Laurent, Dune de Dior ou Angel de Thierry Mugler n'est pas indifférent et provoque de façon plus ou moins consciente une opinion sur la personne embaumée. C'est quoi Angel ? Enfin, qu'est-ce qu'on est quand on met Angel ?
Angel, c'est un parfum qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est un parfum gourmand. Alors, on a dit que c'était le premier parfum gourmand. C'est pas tout à fait juste parce que, avant la guerre de 14, Poiret avait fait un parfum dans la gamme Rosine qui s'appelait Fruits défendus. Alors, vous imaginez, au début de la guerre de 14, quand les gens étaient martiaux, patriotes et tout, c'était pas du tout sérieux. Donc, on lui a fait dégager son parfum.
Le momentum n'était pas très bon.
Non, alors, il a fait le parfum de ma marraine, Mademoiselle Victoire, tout allait bien. Donc, pour revenir à Angel, c'est un parfum gourmand, donc avec des notes chocolatées, guimauve, sucrées, etc. Donc c'était quand même une prise de risque qui a été commercialisée, puisque vous avez raison, tout cela est dépendant, interdépendant, dans un flacon en forme d'étoile que l'on pouvait recharger. Et donc ce parfum a plu, il est arrivé au bon moment, les gens avaient besoin de cette odeur un petit peu
régressive.
Verso, coucounante, assez agressive.
Régressive.
Oui, mais agressive, ouais, aussi.
Agressive aussi,
et régressive également. Et d'ailleurs, ce parfum a été imité. Il a été imité par Molinard. Alors, c'était très embêtant pour la maison Thierry Mugler. Je précise qu'il faut quand même donner le nom des compositeurs. C'était Olivier Cresp et Yves, je ne sais plus le deuxième. Il y a un deuxième compositeur, qu'il me pardonne, je l'ai oublié. Et donc, la maison Thierry Mugler a porté plainte. Alors, c'est important parce que si le tribunal accepte cette plainte, ça veut dire qu'un parfum, même s'il n'est pas reconnu comme œuvre de l'esprit, même s'il n'est pas protégé, bah, il a quand même une identité spécifique. Et en 2005, effectivement, la plainte a été reçue.
Et donc, c'est un parfum qui ne se démode pas. Quels seraient les parfums qui ne seraient plus aujourd'hui tellement en cours ?
Ben, j'ai envie, par pure provocation, de vous dire Chanel numéro 5, parce que quand on fait respirer Chanel numéro 5, les gens n'aiment pas trop. Mais c'est Chanel numéro 5, et qui est porté justement par des visages connus depuis Marilyn Monroe jusqu'à les derniers visages.
Et parce que Marilyn Monroe disait qu'elle ne s'habillait la nuit, qu'elle ne dormait qu'avec une goutte de Chanel 5.
C'est ravissant.
Comment est-ce que les odeurs influencent nos relations avec autrui, nos émotions, nos décisions? Est-ce qu'on arrive à le savoir, ça, Brigitte Munier, ou est-ce que c'est la recherche du futur?
Ben, on arrive un peu à le savoir, mais on y arrivera de plus en plus. Ben, j'espère qu'on n'arrivera jamais au bout, parce que sinon, c'est de la manipulation olfactive, si on peut. Mais il y a effectivement, on sait maintenant qu'il y a des odeurs dites subliminales, c'est-à-dire qu'on ne les sent pas véritablement, mais on est mu par elles, manipulé, si je puis dire.
C'est comme de sentir des brioches dans le métro pour donner envie d'acheter à
oui,
la boulangerie d'à côté.
Oui, ça, c'est du marketing olfactif, mais au-delà de ça, la brioche, quand même, vous la sentez, elle vous donne faim. Tandis que lorsque vous ne sentez rien, enfin oui, ça dépend, quand ce que vous ne sentez rien et que vous êtes quand même conduit à faire quelque chose par l'odeur, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors, il y a une expérience assez amusante. On projette deux diapos l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose, un paysage et une femme. Et si on projette ça devant des hommes dans une salle olfactivement neutre, ils voient un paysage, enfin, mm-hmm. globalement, enfin, pour la majorité d'entre eux. Quand il y a une légère odeur agréable, mais qui n'est pas perceptible, consciemment perceptible, il voit une femme. Et on s'est rendu compte que, effectivement, nous sommes tous assez conditionnés par les odeurs. Alors, on s'en rend compte parce qu'on demande à des gens, on les soumet à des expériences, et effectivement, ils découvrent, par exemple, qu'ils savent distinguer à l'odeur un homme d'une femme, etc. Mais ils sont dans un contexte spécifique. Lorsqu'ils retournent dehors, ce n'est plus le cas.
Et pourtant, l'odorama, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment marché, ou en tout cas, pas encore. Merci beaucoup, Brigitte Munier, pour cette petite histoire de l'odorama et de ses symboles, qui se poursuit par un pas de côté avec vous, Romain de Bec de Lièvre. Bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
C'est le moment d'ouvrir votre PJ.
Que pouvait-on sentir dans les rues du quartier des Halles de Paris à la veille de la Révolution? Quel parfum émanait des quartiers londoniens à l'époque victorienne? Un projet de recherche européen s'attache à répondre à ces questions qu'on pourrait croire typiques d'une époque animée par la fièvre des reconstitutions historiques et fascinée par les raffinements de la simulation. L'initiative s'appelle Odoropa. Elle est née en 2020, en pleine pandémie mondiale, quand certains ne sentaient littéralement plus rien. Elle s'attache à analyser les senteurs du vieux continent, convaincue que l'odorat a été ignoré par les sciences, les sociales comme les dures. Odoropa rassemble ainsi tout un collectif de chercheurs venus de plusieurs disciplines, mais tous spécialisés dans l'olfaction. Ils reconstituent, répertorient, analysent, isolent, dissèquent les odeurs, les bonnes, les mauvaises, les fades, les rares ou les dominantes.
On pourrait dire que notre projet est une approche plus démocratique pour penser le passé. Car l'histoire ne consiste pas simplement en une succession d'événements historiques canonisés où des hommes importants sont partis en guerre, par exemple. C'est aussi des histoires sensorielles dont nous faisons tous partie.
On entend la voix d'Inger Lemans de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences et chef de projet d'Odoropa. C'est donc une histoire parallèle qui cherche à s'écrire dans cette démarche avec et par les odeurs, à côté de l'histoire écrite, une histoire averbale ou préverbale, bref, une histoire sensible. Une des grandes entreprises d'Odoropa réside notamment dans la constitution d'un très vaste répertoire olfactif européen, comme un cabinet d'antiquaires des odeurs, mais sous la forme d'une base de données à très grande échelle avec des technologies et des intelligences artificielles un peu partout. Une des grandes étapes du projet consiste à numériser une masse considérable de textes et d'archives du passé qui décrivent ou donnent à voir les odeurs. Les chercheurs déploient ainsi tout un intéressant processus de numérisation d'images et des symboles se référant aux sensations olfactives, fleurs ou fruits. Odoropa formule ainsi le souhait peut-être prométhéen de recréer et de nous faire littéralement sentir une époque précise et un contexte, car je cite un de leurs préceptes, « Nos sens sont des points de passage vers le passé ». Le projet pose une foule de questions, notamment celle de la patrimonialisation des odeurs, mais une question particulière m'est passée par la tête. Certaines odeurs ont-elles disparu? Si oui, où sont-elles parties? Et quelles traces ont-elles laissées? J'ai donc adressé cette question à Odoropa hier, et Inger Lemans y a répondu ce matin. Je cite une partie de sa belle réponse. Très peu d'odeurs ont complètement disparu, même si à cause de nos pratiques d'élevage et de culture, certaines espèces de fleurs et d'arbres sont devenues plus rares. En revanche, beaucoup d'odeurs sont devenues moins dominantes avec les changements de nos pratiques olfactives. Dans l'Europe actuelle, il est plus difficile de sentir l'odeur de la tourbe brûlée ou du lignite. Les égouts à ciel ouvert ont été couverts et lavés. Le smog londonien s'est évaporé, tout comme, au détriment de beaucoup, les vraies odeurs rurales, comme celle du fumier. Ce sont plutôt les patrimoines d'odeurs complexes qui ont disparu, comme l'odeur d'une perruque poudrée faite de crins de chevaux, la puanteur d'un tanneur ou l'odeur de la fumée de tabac parfumé à la peau d'orange dans un café. Les odeurs ne disparaissent donc pas complètement, c'est rassurant, mais aussi passionnant. Plus d'informations sur le site d'Odoropa.
Et oui, pas d'extinction massive des odeurs, ça c'est bien. Merci Romain de Bec de Lièvre, cette chronique on peut la retrouver sur l'application Radio France ou directement sur notre site franceculture.fr. Sans oser le demander, était aujourd'hui consacré à l'histoire et la symbolique de l'odorat en Occident. Pour aller plus loin, je ne saurais trop vous conseiller le livre de mon invité d'aujourd'hui, Brigitte Munier, Odeurs et parfums en Occident, c'est aux éditions du Félin.